Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, et j'aimerais le partager avec vous.
Le débat tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Vous en avez marre de voir tous les agents qui sont sur le même modèle avec les cheveux trop longs et des mauvaises chaussures qui viennent avec une voiture de location devant votre baraque.
C'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi peut-être.
Ouais, et élargi. Égayé, ça se dit pas.
Oui, on est champion d'Afrique.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jennifer Mendelevitch et Walid Acharchour, c'est Génération After sur RMC. Avec notre invité, entraîneur du Red Star, Habib Bey est avec nous. C'est un plaisir d'écouter plein de messages positifs. Habib, passion, très bon client, tu l'as déjà dit, c'est pour ça que t'es consultant aussi, je pense. Personnalité clivante aussi, on le sait. Parfois,
certains, défaut,
il fait un peu le professeur Habib Bey.
Mais moi,
parce que le professeur, c'est Kevin Diaz en Génération.
Moi, je trouve que ces deux premières années à Canal, je crois quand tu débutes,
C'est une révélation.
J'ai jamais vu un consultant aussi aimé. Je pense, hein.
Ah oui.
Dans l'opinion.
Oui, bien sûr.
Après, il y a eu un switch. Je ne sais pas quand il est arrivé.
Parce que les gros matchs des champions, forcément.
Parce qu'en France,
mais sincèrement, les plus t'es exposé, on le sait ici. Eric Dimeco l'a vécu ici. Sur les gros matchs des champions, plus t'es exposé.
J'ai vu Duga. Le prime de Duga était très, très fort à un moment donné. Et le prime d'Habib, où sincèrement, il y avait unanimité autour d'Habib. Et il y a eu un moment donné où.
La surexposition, de toute façon.
C'est ça.
À un moment donné, amène tout ça. Et il faut qu'on soit très lucide par rapport à ça. Il faut qu'on prenne beaucoup de distance par rapport à ça. Et il faut accepter les critiques. C'est un jeu dans lequel on est lancé. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut en accepter le fonctionnement. C'est un exemple. Les gens se plaignent des réseaux sociaux. Mais si tu ne veux pas le revers des réseaux sociaux, il ne faut pas y aller. Il
ne
faut pas communiquer. Et il ne faut pas t'exposer médiatiquement. Moi, aujourd'hui, tous les messages négatifs que je reçois, d'une, je ne réponds jamais. Et deux, ça fait partie du jeu. Et que je sois clivant aujourd'hui, sincèrement, ça ne me dérange pas. Les gens ont le droit d'avoir les avis qu'ils veulent sur mon métier de consultant, également sur ce que je suis en tant qu'entraîneur, et s'ils veulent, en tant que personne. Parce qu'au fond, on est maître de nos propres vies et on n'est pas là pour contenter un tel ou un tel. En fait, on fait ce métier avec passion, avec envie. Je pense que quand on donne nos avis et quand ils sont tranchés, on ne joue pas un jeu. On est vraiment authentique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'être, authentique le plus possible. Et après, ce que les gens pensent, ben voilà, ils pensent qu'ils ont envie de penser et je ne vais pas changer ma façon de faire ou de penser ou d'être en tant qu'entraîneur ou consultant pour satisfaire ceux qui ne sont pas satisfaits. Au fond, c'est pas très grave, Walid.
Avant de parler de Pierre Sage, notamment, on parle de Luis Enrique aussi. Détour par la salle Coubertin, le handball, Ligue des Champions, PSG Barcelone avec Edgar Grelot. Salut Edgar.
Salut Nico, salut à tous. Ouais, ça se passe très très bien pour les Parisiens. Pour l'instant, 19 minutes de jeu, 9 à 7 pour le PSG handball face au Barça dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ça nous rappelle quelque chose par rapport au foot. Et justement, il y a trois footeux dans les tribunes. Carlos Soler, Arnaud Tenas et Marco Asensio, voilà, qui regardent ce match, qui regardent leurs homologues du hand qui pour l'instant s'imposent face au Barça 9 à 7 après 19 minutes de jeu.
Je vais que Eric qui attend depuis un moment, et puis après on fermera la page avenir d'Habib Bey. Salut Eric.
Tous.
C'est un supporter du PSG. Tu avais une question à poser à Habib, bienvenue.
Oui. Bah déjà, félicitations à lui pour tout ce qu'il fait, parce que j'ai passé ma jeunesse à le siffler. Je passe ma vie d'adulte à apprécier ses commentaires. Il fait remonter dans un championnat qui va être beaucoup plus visible, un club mythique de la région parisienne, parce que le Red Star, c'est mythique, malgré que je sois supporter du PSG. Et moi, j'avais une petite question juste pour le taquiner comme ça, par rapport à tous les bruits qui courent. Si un jour on lui propose le PSG, il réagit comment ?
Ouh là là. Ouais, déjà, merci pour tous ces compliments et bonsoir à toi. Je pense qu'en fait, c'est une question difficile à aborder. Pour deux raisons, c'est ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont très difficiles de refuser. Et c'est pas parce que tu as un attachement à l'OM qu'aujourd'hui tu vas dire catégoriquement, aujourd'hui dire je ne peux pas entraîner le PSG. Déjà, si un jour,
c'est que tout ira bien.
Le PSG s'intéresse à mon profil, j'aurais envie de te dire, avant de prendre ma décision, je te dirai, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Mais je veux même pas en fait aller dans cette logique-là parce que sincèrement, je fais pas partie de cette caste aujourd'hui et il va falloir que je travaille énormément pour aujourd'hui, un jour, espérer avoir l'intérêt d'un club comme le Paris Saint-Germain. J'ai trop de respect pour les gens qui y travaillent aujourd'hui et surtout le niveau où est le PSG aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste compliqué lorsque tu as mon histoire, mon passé, d'entraîner le Paris Saint-Germain. Te dire que c'est impossible, en fait, je suis incapable de te le dire aujourd'hui, ça serait te mentir. Mais par contre, il est clair que tout le monde sait aujourd'hui que mon club de cœur est l'Olympique de Marseille. Tout le monde sait mon attachement à ce club-là. Et je pense qu'il est très difficile, à un moment donné, de mentir aux gens et de mettre dans un rôle. Je prends l'exemple de Christophe Galtier, il a tout essayé pour se détacher un petit peu de cette identité, et au fond, il a jamais réussi. On lui a toujours reproché ça, on l'a toujours ramené à ça, avec tous les efforts qu'il a fait, et je pense que ça reste un mariage qui a été raté, mais pour plein de raisons. Et je pense que son passé, cette identité, lui a collé à la peau, et qu'il a été difficile pour lui, quoi qu'il ait fait, de basculer en fait dans cette logique où les gens vont l'apprécier. Donc je pense que c'est des éléments que tu dois quand même intégrer dans ta réflexion quand on te propose un club comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, je peux pas te dire impossible à 100%, mais c'est très difficile.
De toute façon, c'est non seulement c'est juste ce que dit Habib, mais en plus c'est normal. Il y a un moment, si on veut se dire un grand pays de football, il y a un moment. Je suis désolé, Rui Costa, il ira pas à Porto. C'est comme ça. Steven Gerrard, il va pas aller entraîner Everton. Sauf cataclysme, c'est possible. Ça reste du football, mais je ne le crois pas.
Après, c'est différent parce qu'ils sont nés dans la ville.
Christophe Galtier, il est né dans la ville.
Oui, voilà. Moi, aujourd'hui, je préfère, je suis né à Paris.
Non, mais je veux dire qu'on lui reproche
formé au Paris Saint-Germain.
T'as fait une formation au PSG.
Oui, je suis très fier de ma formation au Paris Saint-Germain.
Hein.
Mais voilà.
Une histoire différente.
Christophe Galtier, qu'on lui reproche.
Moi, c'est un attachement, en fait, d'enfant, qui a été marqué par les années 90 de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai grandi avec ça.
Accentué par tes 4 saisons.
Voilà, et ensuite, j'ai été 4 ans à l'OM.
Moi, je parlais plus pour Christophe Galtier. Je ne lui reproche pas du tout son choix. Comme tu as dit, pour d'autres choses, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, il a voulu y aller. Je comprends que l'entraîneur ait envie d'y aller. Surtout, c'était une belle opportunité. Mais par contre, je ne reproche pas les gens qui lui reprochent.
Ouais, bien sûr. Okay.
C'est aussi un fait.
Merci Eric d'avoir fait le 32-16.
Merci Eric.
Bonsoir à toi, à très vite sur RMC. Alors Habib, je le disais, t'as eu comme adjoint Pierre Sage pendant un an et demi au Red Star avant qu'il parte diriger le centre de formation de l'Olympique Lyonnais en début de saison, avant de devenir l'entraîneur de l'OL avec le succès qu'on connaît. Comment t'observes sa réussite justement? Parce que, je suppose une question journaliste. Il y a de la fierté, est-ce qu'il y a un peu de jalousie aussi?
Ah non, il y a pas du tout de jalousie, hein, vraiment pas. Mes rapports avec Pierre étaient magnifiques quand il était mon adjoint. C'est quelqu'un qui m'a rejoint en janvier lorsque j'ai repris l'équipe. Et surtout, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté au quotidien dans mon travail, parce qu'il est arrivé avec une maîtrise, en tout cas, de tout ce qui était pour moi une sensibilité importante dans ma méthodologie d'entraînement. Il l'a structuré aussi, il m'a fait gagner énormément de temps parce qu'il entraînait depuis très longtemps, il maîtrisait beaucoup de choses, la périodisation tactique, le jeu de position, tous ces éléments-là dont on parle aujourd'hui. Il m'a fait gagner énormément de temps, et en mars de l'année où il part, donc l'année dernière, il vient me voir, on était à Villefranche, et il me dit: écoute Habib, j'ai une proposition en fait pour revenir en fait au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et il dit: c'est mon ADN, c'est la formation, c'est ce que j'aime. Et donc je lui ai dit: Pierre, moi aujourd'hui, on n'a pas signé un pacte pour travailler ensemble pendant 10 ans. On a fait notre parcours, et si aujourd'hui ta sensibilité c'est de repartir à la formation dans un club qu'il aime et où il était avant de venir avec moi, je lui ai dit: je suis très très content. Et maintenant il est propulsé numéro 1 dans une équipe où au départ il n'était pas prêt pour ça. Il a pris l'équipe et puis il a eu de très très bons résultats. Et il vit son métier d'entraîneur avec passion. J'échange avec lui toutes les semaines. On a un groupe qui s'appelle Red Star All Star, où il nous envoie des messages à chaque match, où nous on lui envoie des messages pour l'encourager dans ce qu'il fait. Et on a de très très bonnes relations encore avec Pierre, et je suis très très content. Il n'y a aucune jalousie, parce que je pars du principe que les destins des gens sont magnifiques, et son destin, lui, il est exceptionnel. Il est hors norme. Il s'est construit tout seul à travers des aventures multiples où il a vu tout. Du métier d'entraîneur jusqu'à directeur sportif, jusqu'à entraîner des gamins, et aujourd'hui il est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc lorsque vous êtes
grande humilité.
Bah oui, quand vous êtes dans une authenticité de rapport comme nous l'avons vécu ensemble, c'est-à-dire qu'il a été mon adjoint, je peux que le féliciter de ce qu'il fait et d'être très content de ce qu'il vit.
Tu as dit récemment de lui: sa théorisation du football est complexe, mais le rendu aux joueurs est simple, et c'est pour ça qu'il l'aime beaucoup, les joueurs, hein, parce que tout ce qu'il fait est très clair.
Exactement.
Comment tu définis sa théorisation du football?
Mais en fait, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a poussé à l'extrême la théorisation du football, mais en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il a tout pensé sur la méthodologie d'entraînement, sur comment faire jouer ses équipes, sur les principes de jeu, sur tous ces éléments-là. Et l'avantage qu'il a, c'est que moi, quand je vais le chercher, quand on se voit 1h30, au bout d'une heure et demie, je devais voir 2 autres adjoints derrière, et j'ai dit à mes agents: stop, j'ai trouvé celui que je voulais. Et quand on commence à travailler ensemble, on a des discussions, et des discussions qui sont complexes dans l'approche du foot, c'est-à-dire dans ce que lui pense, dans ce que moi je pense. Et à un moment donné, il a fallu qu'on simplifie tout ça. Et ce que j'ai observé de lui en tant qu'adjoint avec les joueurs, c'est que je me suis dit au départ: bon, maintenant il faut qu'on voit comment on retransmet ça aux joueurs. Et j'ai trouvé ça d'une extrême simplicité. Quand vous passez du bureau au terrain, ce qu'il faut, c'est que les joueurs, ça soit clair. Si vous commencez à leur monter un truc où les joueurs ils vont se dire, voilà, c'est une équation difficile à résoudre, l'entraîneur doit faire en sorte que le message soit très clair pour les joueurs. Et pour moi, la grande qualité de Pierre, c'est que malgré sa théorisation à l'extrême, c'est-à-dire quand vous parlez de foot avec lui, vous voyez dans ses conférences de presse, il utilise des mots que parfois vous vous dites, oh, j'ai jamais entendu un entraîneur parler de process, de situation,
de production.
Et par contre, ce que vous voyez du jeu lyonnais au départ, quand il reprend l'équipe, il les a remis dans un cadre simple.
Ça paraît simple en fait.
Où chacun était à son poste, où chacun savait ce qu'il avait à faire et il a eu des résultats. Et petit à petit, je pense que vous vous en rendez compte, il est en train de poser ses bases de son jeu, petit à petit, avec beaucoup d'intelligence, avec de temps en temps des petites rechutes, mais ça c'est le lot de tous les jeunes entraîneurs qui arrivent et qui expérimentent le très haut niveau et je pense qu'il le vit. Mais pour discuter avec lui, je trouve que sa grande qualité, ça a été la phrase que j'ai dit. Et je trouve que mes joueurs, en tout cas lorsqu'ils s'exprimaient avec les joueurs, c'était toujours très très simple.
Oui, il y a de l'empathie aussi.
Comment on gère quand on est numéro un comme ça? Parce que on le sait, le staff est très très important. Ouais. Et tu t'entoures très très bien. Mm-hmm. Il y a Pierre Sage qui est parti à l'Olympique Lyonnais, mais il y a aussi Sébastien Bichard qui est parti à Clermont pour être numéro un
bis. Autre adjoint exactement.
Avec Gastien notamment, un autre adjoint que vous avez récupéré cet été, qui a fait du bon boulot avec toi. Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a le mythe? On avait reçu Julien Stéphan avec les numéros deux qui peuvent savonner la planche ou tout ce qui peut se passer autour. Comment on fait aujourd'hui quand on voit deux numéros 2 partir dans des très très gros clubs sans forcément avoir cette ambition là au départ? Est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on se dit le prochain, comment ça va se passer? Est-ce qu'on doit toujours bien s'entourer? Parce que c'est aussi la force du Red Star et ta force, c'est d'avoir eu un staff très très compétent, je pense. Parle-nous un petit peu de la
réalité, c'est que quand Pierre s'en va, on décide d'aller chercher un adjoint qui a un profil différent. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à Reda à ce moment-là, et aussi à mes agents qui Classico, qui ont participé à la recherche, en tout cas de mon adjoint numéro un, je dis je veux un numéro un qui a le BEPF et qui soit en capacité de prendre l'équipe comme moi. Pour deux raisons. Parce que je sais que cette personne-là va avoir la capacité d'être au même niveau de diplôme que moi, le même niveau d'ambition, parce que Sébastien, quand je vais le chercher, son ambition, c'est d'être numéro un. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois sortir
du
confort.
C'est rare, ça.
Ouais.
C'est très rare.
Oui. C'est très important de sortir du confort. Et surtout, ce que ne doit pas vivre un coach, c'est la peur des gens avec qui il travaille.
Ça, c'est sûr.
Moi, aujourd'hui, j'ai vu Sébastien pendant une heure et demie et je me suis dit, t'es la personne avec qui je veux travailler parce qu'on a eu ce feeling-là. Et on s'est dit, au fond, si demain, il est amené à avoir une opportunité meilleure que moi, ou moi, parce qu'il est dans le club aujourd'hui, ou demain, moi, ça marche pas. En fait, c'est la réalité du métier dans lequel on est. Moi, j'ai pris la place de quelqu'un qui était là avant moi. Et en fait, c'est le rôle aujourd'hui que vivent des entraîneurs qui sont en attente de poste, des entraîneurs qui sont promus comme moi, je l'ai été. J'étais adjoint, je suis passé numéro un. Et si t'as peur de ça, à un moment donné, t'es dans la paranoïa et tu prends que des béni oui ou des poseurs de coupelles. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir un staff proactif, hyper compétent. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là me font gagner du temps. Et on le voit aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de moi, mais je le dis, j'ai un staff de grande, grande qualité. Sébastien est parti, j'ai Yann Cavezza avec moi qui était mon adjoint numéro 2, qui est maintenant adjoint numéro 1. On n'a pas remplacé Sébastien, on a décidé d'avancer comme ça.
Et c'est important d'avoir un tampon, d'avoir des confrontations entre le numéro 1.
C'est très important parce que c'est en fait, ils te challengent au quotidien. Ils viennent pas te dire t'as tort ou t'as raison. C'est qu'à un moment donné, dans les discussions qu'on a, ces discussions, elles sont riches. Ils amènent des éléments. Et la réalité de notre métier, c'est que pour moi, on n'a pas le monopole de la réflexion. Par contre, on a le monopole de la décision finale. Dans cette décision finale, c'est le numéro un qui la prend, qui va l'assumer et qui doit faire en sorte que toute son équipe, je parle joueur et staff, pas forcément au fond de dire à la fin, vas-y, hein, si tu vas et si on se plante, c'est toi qui auras décidé. C'est de dire, ok, on a une réflexion globale. On a, à un moment donné, vu le panel de toutes les décisions, toutes les réflexions, et on prend une décision et on va tous dedans. Et c'est ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette envie, capacité d'être numéro un. Et Seb, quand il part, il vient et me dit, écoute, Habib, j'ai été contacté par Clermont. Et je lui dis, si t'attends de ma part mon aval pour partir, je te dis, vas-y. C'est l'opportunité d'une vie. Quand t'es club de national, tu ne peux pas retenir quelqu'un qui peut aller en Ligue 1. C'était pas le cas avec Pierre parce qu'il avait décidé de partir, mais avec Seb, la question s'est posée. Je vais être très clair. Le club ne voulait pas qu'il parte. Je suis allé voir mon président, mon directeur sportif. On s'est assis tous les trois et j'ai dit, laissez-le partir. Et il y avait une crainte parce qu'on était dans un moment où l'équipe performait. Il y avait une crainte de déstabiliser le système. Et moi, j'ai dit à mon président, s'il vous plaît, laissez-le partir.
Et tu le retrouveras peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Peut-être en Ligue 2 la saison prochaine.
Mais c'est quelqu'un de très compétent.
Sébastien Bichara, clairement. Kevin, c'est une remarque.
Juste pour finir, en fait, un entraîneur ou un adjoint, c'est quelqu'un, pas forcément qui te donne les réponses, mais c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions aussi ou qui les pose au numéro 1.
Exactement. Et qui va peut-être se poser des questions que le numéro 1 ne se pose pas.
Exactement. Reste avec nous. La suite et avec Abitbay. Dans Génération After sur RMC avec Jennifer, avec Walid, Kevin également. Tiens, on va parler de la Ligue 1. Tu me diras dans un instant quelle est l'équipe de Ligue 1 qui te procure le plus de plaisir quand tu la regardes jouer. Ou les équipes de Ligue 1. On va parler de Luis Enrique, de son travail aussi, beaucoup de questions. C'est incroyable l'obsession des gens pour Faris Moumbagna sur le chat aussi, on nous dit. Je veux savoir ce qu'Abib pense de Faris Moumbagna. C'est devenu le joueur le plus commenté de la Ligue 1.
Ça commence à devenir gênant, non ?
C'est étrange. Allez, reste avec nous, c'est l'after sur RMC, à tout de suite.